Et on attaque la dernière demi-heure de Chérie, j'arrive à Chiz 94.3 avec Alex Tremblay, la marche pour une chronique littéraire. Salut Alex.
Allô.
Et aujourd'hui, tu nous as choisi un thème qui est d'actualité puisqu'aujourd'hui, on célèbre l'anniversaire de l'Université Laval en ce 8 décembre.
Exact. Il y a peu de gens qui le savent, mais le 8 décembre est la fête de l'université. D'ailleurs, aujourd'hui, techniquement, tout est fermé sur le campus, mis à part les vaillants de Chiz.
Eh bien sûr que oui.
Et la raison pour laquelle c'est le 8 décembre, on en parlait juste avant d'entrer en onde, eh bien, c'est pour deux raisons. Tout d'abord, c'est la journée où l'Université Laval va obtenir sa charte royale de la reine Victoria en 1854. Mais c'est aussi, bon, le jour de l'Immaculée Conception, qui est une fête religieuse. Et comme l'Université Laval, au départ, était une université catholique, on se rappelle que les recteurs de l'université ont été des hommes d'église jusque dans les années 1970, si je ne m'abuse. Et donc, c'est ça, c'était une fête assez importante, l'Immaculée Conception. C'est la journée où est conçue Marie, qui va naître le 8 septembre, donc 9 mois avant, et d'où l'idée d'Immaculée Conception.
J'aurais jamais pensé que ça remonte à aussi loin avec une signification si précise. Moi, ce que je retiens, c'est qu'aujourd'hui, c'est l'anniversaire de l'université et l'université est fermée. Alors, ça fait un congé assez sympathique pour les étudiants qui nous écoutent et qui sont en fin de session. On a vraiment une pensée pour vous. Moi, je vous salue. Je salue votre courage. Alors, tu nous as préparé une liste de 3 ouvrages qui relatent un peu l'histoire et le développement de l'éducation. Et on commence avec un premier qui s'appelle Lire et écrire chez les Amérindiens de Nouvelle-France. C'est un ouvrage de Paul-André Dubois. Pourquoi on se dirige vers là pour le début de ta chronique?
Eh bien, parce que c'est un ouvrage que j'ai reçu récemment et que je trouve fort intéressant parce qu'il nous permet, bon, de voir l'histoire de l'éducation, mais de la voir sous un autre angle. Lorsqu'on parle de l'histoire de l'éducation, souvent, on va parler de l'éducation des Canadiens français ou l'éducation des protestants qui arrivent au lendemain de la conquête. Et on va peu parler, effectivement, de l'histoire de l'éducation chez les Autochtones. Et lorsqu'on va en parler, on va plus parler de l'histoire, bon, de l'éducation avec les valeurs traditionnelles, les savoir-faire traditionnels qui sont passés de génération en génération. Or, Paul-André Dubois ici nous permet de comprendre une forme d'éducation qui est aussi une forme d'acculturation. Parce que, bon, ce qu'on vise à apprendre aux Autochtones lorsque, bon, les Européens arrivent en Nouvelle-France, c'est, bon, à lire et à compter, à écrire aussi, mais en français, donc à l'européenne. Et ce faisant, ils veulent en faire des Européens un peu par le fait même. Et donc, un ouvrage intéressant pour comprendre l'histoire de l'éducation, mais aussi pour comprendre l'histoire des Autochtones et l'histoire du rencontre entre civilisations.
Alors, un processus de christianisation ici, oui. C'est curieux parce que leur apprendre à l'époque, en Nouvelle-France, aux Autochtones à lire et à écrire, c'était non seulement de leur permettre d'entrer en communication avec nous, donc de bonnes intentions pour qu'on puisse s'entendre puisqu'on partageait maintenant le territoire, que ça a pris un tournant un peu insidieux avec le fait qu'on voulait les assimiler carrément.
Tout à fait. Et là-dessus, on a 2 écoles différentes, si je peux m'exprimer ainsi. On a les jésuites qui, eux autres, sont pour, effectivement, la christianisation et l'apprentissage de la langue française chez les Autochtones, mais qui veulent quand même maintenir les langues autochtones et les mœurs, mais bien entendu, en les corrigeant, parce que, on a cette idée-là un peu européocentriste, comme quoi que, l'Europe est le centre du monde et que, eux, les Européens, ils savent comment faire, puis que, les sauvages, comme on disait à l'époque, et on ne le disait pas nécessairement dans une perspective négative. C'est des gens qui n'étaient juste pas au contact de la civilisation européenne, si on peut s'exprimer ainsi. Il y avait des mœurs un peu différentes et donc il y avait une volonté de les corriger pour les amener à l'européenne. Et donc, il y avait cette idée-là des jésuites qui était quand même relativement respectueuse des mœurs autochtones et il y avait l'idée plus des récollets et des sulpiciens de leur apprendre effectivement à lire, à écrire, à s'exprimer en français, mais en abolissant la culture autochtone, ce qu'on va voir beaucoup plus tard également dans les pensionnats qui, sont tristement célèbres, effectivement, pour avoir voulu tuer l'Indien dans l'Indien, comme on disait à l'époque.
C'est un pan d'histoire qu'on ne doit pas ignorer. Je suis intriguée par cet ouvrage-là, « Lire et écrire chez les Amérindiens de Nouvelle-France » de Paul-André Dubois. Ça raconte un peu la rencontre de deux mondes, celui du monde des Autochtones qui se font... Qui apprennent l'alphabet, qui apprennent à compter, etc. Et les missionnaires européens et la mission qu'ils avaient derrière tout ça. Qu'est-ce que tu as apprécié de cet ouvrage-là et qu'est-ce que tu as peut-être un peu moins aimé?
De ce que j'ai apprécié de l'ouvrage, c'est vraiment que c'est un portrait très complet de la question. On part des débuts, de la rencontre, de cette volonté qu'ont les Français d'imiter les Espagnols. Je sais pas si tu as vu le très beau film La Mission, qui est un film où on voit Jeremy Irons qui va enseigner dans les missions en Amérique du Sud, qui incarne un Espagnol. Donc, il y a vraiment une volonté chez les Français de s'inspirer de l'approche espagnole, de convertir les Autochtones, de les civiliser pour en faire des bons sujets. Mais bon, rapidement, ça sort à différents problèmes, notamment le fait que ça coûte très, très cher de faire ça. Et dès que le petit autochtone francisé, européisé retourne dans sa communauté, souvent, effectivement, il va regagner sa culture en partie ou en totalité. Et bon, finalement, ça va être un peu délaissé pour revenir à la fin du 18e siècle avec on comprend que les Européens sont ici pour de bon, puis que les chefs, les familles aisées vont se dire qu'il faut qu'on apprenne à écrire et à lire à nos enfants pour qu'ils puissent s'inscrire dans cette dynamique de pouvoir. C'est vraiment, en fait, cette trame narrative qui part des débuts jusqu'à la fin qui est très intéressante pour comprendre, en fait, ce pan d'histoire-là des Autochtones que j'ai beaucoup aimé. L'idée aussi que on voit que la volonté d'européiser les Amérindiens fonctionne plus ou moins, mais en même temps, il va y avoir ce qu'on appelle les domiciliés, ceux qui acceptent de venir vivre dans une réserve sous la supervision de missionnaires. Et lorsqu'ils vont être mis en contact avec des Autochtones qui n'étaient pas en réserve, ils vont dire « Ah, ils ne sont pas tout à fait comme nous, eux autres ». Donc, on voit que tranquillement, leur culture s'est modifiée au contact des Européens. Donc ça, c'est ce que j'ai beaucoup apprécié. Ce que j'ai un petit peu moins apprécié, par contre, c'est on aurait voulu peut-être que l'auteur fasse preuve de davantage de synthèse. Comme tu peux le voir, c'est un ouvrage assez massif.
Oui.
On parle de presque 700 pages. Et donc, c'est ça. À certains moments, on se dit peut-être qu'on aurait pu avoir un peu plus de synthèse, mais c'est ça. Ça reste quand même une lecture fondamentale pour comprendre l'histoire du contact entre Autochtones et Européens au début de la Nouvelle-France. C'est pour comprendre justement comment est-ce qu'on veut éduquer l'autre à sa culture à cette époque-là.
Alors ça s'appelle « Lire et écrire chez les Amérindiens de Nouvelle-France ». C'est un ouvrage de Paul-André Dubois. Aujourd'hui, on vous présente des ouvrages, des livres qui ont trait à l'éducation puisque c'est l'anniversaire de l'université. On plonge maintenant dans le deuxième « J'enseigne depuis toujours », dialogue d'Eftia Mielakis, Catherine Mavrikakis, Jérémy McEwen et Josiane Poirier. Explique-moi ton choix.
Oui, c'est un livre que j'ai reçu encore une fois en service de presse il y a quelque temps et le titre m'avait intrigué pour avoir moi-même été chargé de cours, pour être également doctorant et pour fréquenter le milieu de l'éducation. Et je suis tombé dedans comme ça et j'ai vraiment apprécié ma lecture parce que ce que c'est vraiment une réflexion et un dialogue sur l'enseignement de nos jours. On a une professeure d'université renommée, une professeure d'université en début de carrière qui est l'initiatrice du projet, Eftia Mielakis, la professeure renommée étant Catherine Mavrikakis. On a un professeur de cégep, Jérémy McEwen, et une doctorante, qui est finissante, qui est en début de carrière, si on peut s'exprimer ainsi, Josiane Poirier. Et donc, on a différents points de vue sur l'éducation. Et ces gens-là, j'ai envie de dire, jasent entre eux. C'est une série de dialogues. C'est toujours deux d'entre eux qui jasent entre eux sur différentes questions, comme par exemple l'enseignement.